Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manirakis à la présentation de cette édition du mardi 5 octobre 2021. Voici d'abord le sommaire. Le président français Emmanuel Macron demande que l'État revienne au Mali. Paris, trop déconnecté des nouvelles générations africaines et leur lutte pour la démocratie, selon un rapport du Camerounais Achille Mbembe. Au Tchad, les 93 membres du Conseil national de transition installés aujourd'hui dans les locaux du Palais de la démocratie d'N'Djamena. Libye, le Haut Conseil d'État rejette la loi sur les législatives approuvée la veille par le Parlement. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, reçu mardi à Paris pour restaurer la confiance avec Washington. Dans des minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Nouvelle pique d'Emmanuel Macron à la junte malienne. Le président français appelle à ce que l'État revienne au Mali dans un contexte de fortes tensions entre Paris et Bamako. Le point avec Abdourahmane Dia.
Pour Emmanuel Macron, l'armée française n'a pas à se substituer à l'État malien. Dans un entretien diffusé sur France Inter, il a souligné qu'on ne peut pas demander aux soldats français de remplacer ce qui est le travail de l'État malien. Il faut que l'État revienne avec sa justice, son éducation, sa police partout, en particulier au Mali, où des pans entiers du territoire restent livrés à eux-mêmes face aux djihadistes, aux tensions intercommunautaires et au trafic, a-t-il dit, évoquant aussi le Burkina Faso voisin. Emmanuel Macron a vanté des vrais résultats et des vrais succès de l'armée française présente depuis 8 ans au Sahel, qui va, selon lui, se concentrer dorénavant sur la stricte lutte contre les groupes terroristes. Le président français avait qualifié jeudi de honte les accusations d'abandon en plein vol du Mali par la France, portées par le premier ministre de transition Choguel Kokala Maïga à la tribune des Nations Unies. La France a entrepris en juin la réorganisation de son dispositif militaire en quittant notamment les bases de Kidal, Tombouctou et Tessalit et en prévoyant de réduire ses effectifs dans la région d'ici à 2023. La junte malienne au pouvoir envisage pour sa part de recourir au service des paramilitaires russes de la société privée Wagner.
La France accueille vendredi un sommet pour tenter l'éternelle refondation de sa politique avec l'Afrique. Quelques 3000 participants, dont plus d'un millier de jeunes du continent, sont attendus vendredi à Montpellier, dans le sud de la France, pour cette rencontre entre sociétés civiles africaines, françaises et de la diaspora sur des sujets économiques, culturels et politiques, organisés en table ronde. Dans son rapport remis mardi au président français, l'intellectuel camerounais Achille Mbembe estime notamment que la France est trop déconnectée des nouveaux mouvements et des expérimentations politiques et culturelles portées par la jeunesse africaine. Il souligne également que de tous les différends, aucun n'est aussi corrosif que l'appui présumé de la France à la tyrannie sur le continent. L'Élysée promet des propositions concrètes basées sur le rapport remis par Achille Mbembe au président Macron. Nous y reviendrons en page magazine de cette édition. Au Tchad, les 93 membres du Conseil national de transition nommés par le chef de la junte militaire, le général Mahamat Idriss Déby, le 24 septembre dernier, ont été installés ce matin dans les locaux du Palais de la démocratie d'N'Djamena. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a été élu par acclamation au poste du CNT. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point d'N'Djamena.
Après 10 ans passés à la tête de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi présidera désormais les travaux du CNT, un organe qui jouera le rôle du Parlement provisoire pendant la transition. Il était face à l'ancien Premier ministre Déloa Kassiré Komakoué, qui avait également présenté sa candidature avant de se désister. Kabadi aurait évoqué son état de santé pour refuser d'assumer sa responsabilité constitutionnelle après la mort du maréchal Idriss Déby Itno en avril 2021 sur le champ de bataille. Les membres du CNT ont pour mission, entre autres, de suivre chargée de contrôler l'exécution par le gouvernement des décisions et orientations du Conseil militaire de transition et d'examiner et d'adopter le projet de constitution et les textes législatifs. Les membres de la coordination des actions citoyennes Wakitama estiment que c'est un non-événement et exige la dissolution de cet organe puisque nommé par l'exécutif, cet organe n'aura pas la main libre pour contrôler les actions du gouvernement. Parmi les 93 membres du CNT, il y a 24 députés de l'Assemblée nationale sortante, dont son président Haroun Kabadi, par ailleurs secrétaire général de l'ancien parti au pouvoir. La nouvelle Assemblée provisoire compte 33% de femmes et 67% d'hommes. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Le Conseil d'État libyen, instance faisant office de Sénat, a annoncé ce mardi rejeter la loi adoptée la veille par le Parlement et devant régir les élections législatives. Ceci à moins de 3 mois d'un double scrutin crucial pour l'avenir du pays. Les précisions de John Linton.
Le Haut Conseil d'État rejette les violations continues par le Parlement, dont la dernière en date est la promulgation de ce qu'il a appelé la loi électorale du Parlement, sans se conformer au texte de l'article 23 de l'accord politique signé fin 2015 à Skirad au Maroc, a réagi sur Twitter Mohamed Nasser, porte-parole du HCE, instance basée à Tripoli dans l'Ouest. L'article 23 oblige le Parlement à se mettre d'accord avec le Haut Conseil d'État sur cette loi, a affirmé M. Nasser, en tenant responsable le Parlement et ses membres de tout retard ou perturbation de la date des élections due à des actions unilatérales. Lundi, le Parlement siégeant à Tobrouk dans l'Est a adopté la loi régissant les législatives un peu plus de 3 semaines après la ratification d'un autre texte controversé encadrant le volet présidentiel du double scrutin prévu le 24 décembre. Le HCE avait déjà rejeté le texte régissant l'élection du futur président, ratifié sans vote et favorisant l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, au grand dam des autorités basées à Tripoli.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron a reçu en tête-à-tête aujourd'hui à Paris le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken afin de tenter de contribuer à restaurer la confiance entre la France et les États-Unis après la crise des sous-marins, a indiqué l'Élysée. Le point avec Nanit Talani.
Le long tête-à-tête entre Macron et Blinken, qui n'était initialement pas à l'agenda, doit contribuer à restaurer la confiance entre la France et les États-Unis après la crise des sous-marins qui a éclaté mi-septembre, a déclaré l'Élysée. La réception visait à préparer les décisions concrètes qu'Emmanuel Macron et Joe Biden annonceront fin octobre afin de sceller la réconciliation après la crise inédite. Un haut responsable américain qui a salué un entretien positif et productif explique qu'il y a à présent un commun accord d'une opportunité d'approfondir et renforcer la coordination franco-américaine, même si beaucoup de travail difficile reste à faire pour identifier ces décisions concrètes. L'Élysée souligne que Paris et Washington poursuivent leur travail de coordination sur les enjeux d'intérêt commun, qu'il s'agisse de la coopération Union européenne-OTAN, du Sahel ou de l'espace Indo-Pacifique. La tension entre les États-Unis et la France a éclaté le 15 septembre quand le président américain a annoncé une nouvelle alliance avec l'Australie et le Royaume-Uni dans la région Indo-Pacifique. Ce partenariat a suscité une rare colère de la France car il a torpillé un méga contrat de sous-marins français passé avec les Australiens.
Le président américain Joe Biden a pris mardi le chemin du Michigan pour vanter ses gigantesques projets économiques et sociaux actuellement bloqués au Congrès et que la Maison-Blanche peine à rendre concrets pour le grand public. Le démocrate se rend dans l'État de la région des Grands Lacs dans le nord du pays pour visiter un centre de formation syndicale et prononcer un discours. Le Michigan compte par exemple plus de 1200 ponts en mauvais état. Les familles dépensent environ 10 400 dollars par an pour la garde d'un jeune enfant, un montant que l'administration promet de diviser par deux au moins pour les ménages aux revenus faibles ou moyens. Toujours aux États-Unis, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a alerté mardi qu'un défaut de paiement de Washington, faute d'accord au Congrès pour relever le plafond de la dette avant la date butoir du 18 octobre, pourrait provoquer une nouvelle récession. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée John Lyndon.
Au Cameroun, l'encours de l'endettement dû est resté sur une courbe évolutive au cours des derniers mois. Selon Financial Afrique, ici de la note de conjoncture mensuelle de la Caisse autonome d'amortissement, la dette publique du pays au 31 août 2021 s'élève à un peu plus de 19 milliards de dollars, soit respectivement une augmentation de 0,5% par rapport au mois précédent et de 8,2% par rapport à l'année dernière. Cette dette représente 45,3% du PIB selon Financial Afrique. Le taux de pénétration de l'Internet mobile en Afrique était de 28% en 2020, selon l'agence Ecofin, qui cite un rapport de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie. Ce faible taux est dû à la cherté du smartphone, dont le taux de pénétration se situe à 48%. Dans un rapport, l'Alliance for Affordable Internet estime en effet que le prix moyen d'un smartphone en Afrique est de 62 $, soit 62,8% du revenu national brut mensuel par habitant. La croissance économique mondiale sera légèrement plus faible qu'attendue cette année, c'est ce qu'a prévenu mardi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, inquiète du fossé grandissant entre les pays riches qui profitent globalement de la reprise et les pays pauvres affectés par le manque de vaccins et les poussées inflationnistes.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo fera finalement sans Gaël Kakuta et Meshack Elia lors de sa double confrontation face à Madagascar jeudi et dimanche à l'occasion des 3e et 4e journées des qualifications au Mondial 2022. Gaël Kakuta est blessé et Meshack Elia a été suspendu après un différé avec son club, le tout-puissant Mazembe. Pire, Yannick Bolassier a aussi déclaré forfait. Les ailiers Joël Kayamba de Victoria Plzeň en République tchèque et André Boukia d'Aruka au Portugal ont été appelés en renfort. L'international ivoirien Serge Aurier, 28 ans, a signé un contrat avec Villarreal, a annoncé le club espagnol libre depuis le mois d'août et la fin de son contrat avec les Spurs. L'ancien latéral droit de Tottenham et du Paris Saint-Germain rejoint le sous-marin jaune pour une saison plus deux en option. Il retrouve ainsi Unai Emery, entraîneur sous les ordres duquel il a déjà évolué au PSG. Pendant la saison 2016-2017, Aurier a joué 77 matchs de Premier League avec Tottenham, mais a perdu son statut de titulaire sous Mauricio Pochettino, puis José Mourinho. Le capitaine ivoirien fait partie de la liste qui participera au match de qualification au Mondial 2022 au Qatar contre le Malawi à Cotonou au Bénin le 11 octobre et ne rejoindra ses nouveaux coéquipiers qu'après la trêve internationale. Doubler la fréquence de la Coupe du Monde de football comme l'envisage la FIFA serait néfaste pour le foot féminin, affirme l'UEFA, l'Association européenne des clubs et plusieurs grandes fédérations dans un texte commun. Le projet de l'instance d'organiser tous les deux ans un mondial masculin et féminin au lieu de 4 ans aujourd'hui aura des conséquences sportives, économiques et sociétales profondément néfastes qui altéreront le développement du football féminin, prédisent les organisations. Leur communiqué est le dernier épisode en date dans la bataille de l'opinion qui oppose depuis début septembre la FIFA et ses alliés, partisans d'un mondial biennal et un front composé de l'UEFA et la CONMEBOL, entre autres. Le Kenya confirme sa candidature à l'organisation des championnats du monde d'athlétisme de 2025. Nous avons officiellement confirmé notre candidature pour accueillir les championnats du monde le vendredi 1er octobre, ce qui était la date limite fixée par World Athletics, a déclaré Jackson Tuwai, le président d'Athletic Kenya. L'Afrique n'a jamais accueilli l'épreuve reine de l'athlétisme mondial. Nous avons organisé deux championnats du monde junior très réussis au stade Kasarani en 2017 et en août 2021, où un certain nombre de records du monde et de records personnels ont été réalisés, a ajouté M. Touaï. La candidature de Nairobi doit faire face à une série de rivaux de premier plan, dont Tokyo, qui a organisé les Jeux Olympiques en juillet.
Merci à Yakuba pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Dans un entretien diffusé sur une chaîne de télévision française hier, le président Emmanuel Macron a appelé à un retour de l'État au Mali pour assurer la justice, l'éducation et la sécurité face aux djihadistes, aux tensions intercommunautaires et au trafic. Tout en vantant des vrais résultats et succès de l'armée française au Sahel, M. Macron a aussi affirmé que l'armée française n'a pas à se substituer au non-travail de l'État malien. Ces déclarations interviennent alors que les relations entre Paris et Bamako restaient tendues dans un contexte de réduction du contingent français au Sahel et l'ouverture des discussions entre le Mali et la société militaire privée russe Wagner. Pour une analyse, Nanit Talani, adjoint à Paris en France, le journaliste et analyste des questions africaines, particulièrement celles du Sahel, Seydik Abba.
Dès le départ, il n'était pas entendu que l'armée française vienne se substituer à l'armée malienne. Le président Macron, en parlant de résultats, voudrait simplement mettre l'accent sur les chefs djihadistes qui ont été éliminés par l'armée française. Ça, c'est incontestable. Mais sur le plan du bilan sécuritaire, comme le reconnaissent les Nations Unies, la sécurité au Sahel ne s'est pas améliorée depuis l'intervention française. Au contraire, la sécurité entre janvier 2013 et aujourd'hui s'est dégradée. Parce que quand la France intervient en janvier 2013, au côté d'autres pays, dont le Tchad, souvent on parle que de la France, le Tchad aussi a envoyé son armée et son armée a payé un plus lourd tribut. La France n'est pas négligeable, a perdu 52 soldats, mais un pays comme le Tchad a perdu au cours d'une seule opération une trentaine de soldats et au total, si vous comptez le nombre de soldats tchadiens qui sont morts, c'est important. Quand l'intervalle commence en janvier, la situation sécuritaire ne concernait que le nord du Mali. Aujourd'hui, la situation concerne le nord, le centre et même un peu le sud du Mali. Aujourd'hui, la menace terroriste a débordé jusqu'au Niger, a débordé jusqu'au Burkina et elle menace même de déborder jusqu'au pays du Golfe de Guinée. Même si la France ne peut pas être tenue pour responsable, donc on ne peut pas se vanter d'une amélioration quelconque de la sécurité.
Et cet appel à un retour de l'État au Mali?
Une bonne partie de l'argent qui a été investi pour la réorganisation de l'armée malienne a été détourné par des officiers, par le ministère de la Défense. Tout le monde sait le scandale qu'il y a eu et qui n'est pas encore clos dans l'achat d'armement, dans l'achat d'avions du président Ibeka à l'époque. Il y a ce côté corruption, il y a aussi l'absence de l'État. L'État malien n'est pas présent dans certaines parties du territoire et le groupe djihadiste ont profité de cette absence de l'État pour organiser eux-mêmes la justice. La responsabilité de l'État malien est importante dans la dégradation de la situation aujourd'hui. Et si on veut avoir des résultats, le militaire et le sécuritaire est important, mais toutes les questions de développement, toutes les questions de bonne gouvernance, de décentralisation, tout ça doit être mis en avant pour obtenir les résultats. Il est trop facile pour le Mali de rejeter la responsabilité sur la France et les partenaires extérieurs.
Pourquoi est-ce maintenant que le président Macron sort tous ses propos alors que ce dont il parle existe depuis que la junte a pris le pouvoir au Mali et même bien avant?
Il y a malheureusement une situation. La France ayant décidé de repenser son dispositif Barkhane au Sahel avec la suppression de certains postes, à Bamako, la nouvelle équipe au pouvoir a estimé qu'elle pouvait faire appel à d'autres partenaires, notamment la société Wagner, la société russe, ce qui semble une fausse position à un vrai problème.
Seydik Abba, journaliste et analyste des questions africaines, particulièrement celle du Sahel.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
L'historien et philosophe Achille Mbembe, spécialiste de la décolonisation, a été chargé par le président français Emmanuel Macron de préparer le sommet Afrique-France qui se tient vendredi à Montpellier. L'intellectuel camerounais a remis ce matin au président Macron un rapport de 150 pages qui formule notamment 13 propositions pour la refondation des relations entre la France et le continent. joint par Claire-Marie Gibourg, Achille Mbembe, revient sur ce qu'il qualifie de moment historique dans les rapports France-Afrique.
Ce qui est ressorti des débats dans les pays africains en amont de ce sommet, c'est la grande aspiration de la jeune génération à la mobilité, à la démocratie et à la dignité. Et sur la base de ce constat tout à fait simple, mais absolument crucial, on a élaboré une série de propositions qui ont été soumises au président de la République.
Il est bien sûr difficile de résumer en quelques minutes ce rapport qui fait 150 pages, mais pouvez-vous nous citer quelques-unes de ces propositions que vous avez faites au président Macron ?
Disons, il y en a 13, on ne va pas les lister toutes. La première proposition consiste à créer un fonds d'innovation pour la démocratie. La deuxième grande proposition vise à bâtir à Paris même une maison des mondes africains et des diasporas. Il y en a 11 autres qui s'attardent à régler les grandes questions qui sont ressorties des débats. Mais je vous cite ces deux-là parce que ce sont les deux propositions phares qui constitueront un peu l'essentiel des discussions dans les jours qui viennent.
Comment vous vivez ce moment ? Est-ce que vous vous attendiez un jour à pouvoir faire ce genre de proposition ?
Non, franchement, non. Moi, j'étais un universitaire. Je m'occupais de choses, au fond, théoriques. Lorsque le président Macron est venu me demander de l'accompagner dans cet exercice, j'ai tout de suite su que c'était une opportunité historique pour faire entendre la voix, les voix de l'Afrique dans ce forum, qui est un forum important. Les relations entre la France et l'Afrique sont à un point de bifurcation. Elles ont besoin de clarification. Et j'ai cru, disons, voir dans l'attitude du président Macron une disponibilité justement à engager ce dialogue.
Et qu'attendez-vous de ce sommet ?
Eh bien, ce sommet qui arrive, c'est un sommet qui, j'espère qu'il marquera une étape. C'est pas la fin, ce n'est que le début. Tout dépendra effectivement de l'après-sommet, de ce que l'on va faire. J'espère qu'on tracera, mettra en place un processus visant à l'application, l'opérationnalisation des 13 propositions préliminaires que nous avons mises sur la table.
C'était l'écrivain et spécialiste de la décolonisation, Achille Mbembe. La bourse de New York a terminé lundi en forte baisse, plombée par le secteur de la technologie, Facebook et les craintes d'inflation. Poids lourd du Nasdaq, Facebook a plongé de 4,89% à $326, cumulant les déboires entre les accusations d'une lanceuse d'alerte sur la politique du groupe et une méga panne de plusieurs heures de ses réseaux. En seulement quelques heures, cette panne généralisée a fait perdre $7 milliards à Mark Zuckerberg, son cofondateur. Quelle analyse peut-on faire de cette situation ? John Lindon a posé la question à Jean-Baptiste Essissima, entrepreneur digital et fondateur de plusieurs plateformes à France Entrée. Il est à Ottawa, au Canada.
Oui, on peut dire que c'est une situation catastrophique pour bon nombre de services qui dépendent des services du géant américain Facebook. L'attaque a visé une faille de sécurité très importante dans le réseau de l'entreprise. On parle de la faille BGP, qui est un protocole de passerelle extérieure standardisé utilisé pour des échanges d'informations, de routage et d'accessibilité entre les systèmes autonomes de premier niveau de l'Internet. Ça veut dire tout simplement que ce qui a causé nos problèmes, c'est la suppression totale des DNS de routage de Facebook.
Et comment éviter ce genre de situation ?
Pour éviter ce genre de situation, au niveau de Facebook, par exemple, c'est juste renforcer son système de sécurité. Vous savez, les failles informatiques, on ne peut pas avoir une sécurité zéro parce qu'on a d'une part des pirates qui travaillent à percer les systèmes de sécurité des réseaux et de l'autre part, on a des administrateurs réseau des entreprises qui doivent être vigilants pour s'assurer que leur réseau est sécurisé.
Et cette coupure généralisée a eu un impact mondiale. Il y a des influenceurs, des médias comme le nôtre et même des entreprises qui étaient privées carrément de ces réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui sans réseaux sociaux?
On ne peut pas vivre aujourd'hui sans réseaux sociaux pour ceux qui sont dans des activités mondialisées. Parce qu'aujourd'hui, on vend des produits à un plus grand nombre, les frontières sont tombées. Alors pour ceux qui ont basé leur business dans des plateformes, dans les réseaux sociaux, c'est évident qu'ils ne peuvent plus s'en passer par rapport à leur business.
Alors, vous êtes également dans le business des plateformes digitales, puisque vous êtes fondateur d'un certain nombre de plateformes. Je vais citer ici AfriTube ou bien NetiWiki. Quelle est la réponse africaine face à ce genre de situation?
Oui, ben, cette panne qui s'est passée dans le réseau Facebook doit être un avertissement pour les Africains. Ça doit réveiller les Africains pour qu'ils puissent gagner leur indépendance digitale. Parce que l'Afrique aujourd'hui est le seul continent qui n'a pas un écosystème digital propre à elle. En Inde, en Asie, en Eurasie, des pays s'organisent à se libérer de la dépendance des entreprises technologiques des GAFAM. Et donc l'Afrique doit saisir cette opportunité pour comprendre qu'il est temps pour elle aussi de se doter d'un écosystème digital avec des plateformes plus proches des réalités des Africains.
Jean-Baptiste Essissima, entrepreneur digital et fondateur de plusieurs plateformes afrocentrées, joint à Ottawa au Canada.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la Californie continue de nettoyer ses plages de Huntington Beach, touchées par une marée noire. Des barrières flottantes connues sous le nom de barrages pétroliers ont été déployées à Newport Beach pour tenter de contenir le pétrole provenant d'un déversement massif au large des côtes. Cette marée noire, qui pourrait atteindre jusqu'à 588 millilitres de pétrole brut, menace toujours les côtes californiennes. Yacouba Ouedraogo.
Oiseaux et poissons morts se sont échoués sur les légendaires plages d'Huntington. La marée noire menace toujours les côtes californiennes où les secours tentent de contenir la nappe de pétrole qui a déjà pollué ces plages, désormais fermées par les autorités, un crève-cœur pour les touristes qui chérissent cette ville baptisée Surf City. Terry Lovell est une touriste venue de l'État de Washington.
Je suis ici en vacances et apprendre cela à mon arrivée a été très dur pour moi. J'aime beaucoup les animaux. Alors, savoir que ces animaux sont touchés de manière aussi horrible m'a brisé le cœur.
Nubia Ugarti, elle, est venue d'Arizona.
Nous n'avions pas réalisé à quel point c'était grave. Nous n'avions pas réalisé que toutes les plages étaient fermées. Nous pensions qu'au moins nous pourrions aller dans l'eau sans nous baigner complètement, mais il semble qu'on ne puisse même pas y tremper les pieds. Ils veulent qu'on sorte complètement de l'eau.
24 km de plage entre Huntington Beach et Lugana Beach ont été fermés au public et la pêche a été interdite. Les gardes-côtes ont mobilisé de nombreux navires de dépollution et déployé 1600 mètres de barrages flottants pour contenir la nappe. La marée noire, qui pourrait atteindre jusqu'à 580 000 litres de pétrole brut, s'étend sur plus de 30 km carrés. Des chiffres qui peuvent aller au-delà, selon la capitaine Rebecca Org, garde côtière.
Nous avons plus que doublé le niveau d'effort depuis hier et ces chiffres vont augmenter. Cela inclut à la fois la récupération du pétrole qui flotte sur l'eau, c'est donc du pétrole en haute mer. Et nous avons une flotte de bateaux là-bas qui utilisent des barrages de confinement pour isoler ce pétrole et le collecter. Et ce que nous appelons des écumeurs. À terre, nous avons des équipes d'évaluation du littoral.
Sur la cause de l'incident, les hypothèses convergent vraisemblablement vers une fuite de pétrole sur un oléoduc passant à proximité. D'aucuns pointent du doigt la lenteur dans la réaction. La société texane Amplify Energy, qui exploite cet oléoduc, a assuré avoir prévenu les gardes-côtes samedi matin dès qu'une suspicion de fuite a été détectée par ses équipes. Martin Wilcher, PDG d'Amplify Energy.
Nous n'étions au courant de rien vendredi soir. Samedi matin, lorsque nous avons trouvé l'éclat, c'est à ce moment-là que nous avons lancé la commande d'incident. Nous n'étions donc au courant de rien vendredi soir. S'il y a des rapports, ils ne sont pas venus nous voir et nous n'avons fait aucun rapport.
L'État de Californie et de nombreuses municipalités tentent de s'opposer par tous les moyens au projet d'extraction pétrolière depuis le traumatisme de la marée noire de Santa Barbara en 1969.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Manirakidza a été à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.